France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Toutes les cellules de notre corps sont électriques, de nos neurones, véritables piles vivantes, jusqu'aux cellules de l'épiderme. Quelle est l'importance fondamentale de la bioélectricité ? Comme le chantent les téléphones, je suis chargée d'électricité. Le cerveau utilise des signaux électriques rapides pour envoyer des messages d'un neurone à l'autre, mais aussi avec le reste du corps, une sorte de système télégraphique biologique sophistiqué. La bioélectricité concerne toutes les cellules vivantes, et l'ensemble de ce réseau électrique qui parcourt un organisme est appelé l'électrome. Ce phénomène naturel est vital à tous les niveaux. Le décodage de ce langage électrique ouvre de nombreuses perspectives thérapeutiques et notamment en cancérologie. Électricité cellulaire, c'est le watt qu'elle préfère. Stéphane Charpier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes électrophysiologiste et directeur de recherche à l'Institut du cerveau de Paris, professeur de neurosciences à Sorbonne Université, et vous venez de publier aux éditions Albin Michel Le cauchemar de Descartes. Bonjour Raphaël Rapetimos.
Bonjour.
Vous êtes biologiste chargé de recherche CNRS, spécialisé dans l'étude du cancer à l'Institut de biologie Valrose, et vous êtes médaille de bronze du CNRS 2023. Merci à vous deux d'être avec nous dans nos beaux studios à France Culture en direct, et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Merci à ceux qui sont avec nous sur YouTube. Et puis, cette émission peut aussi se suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources et sur notre compte @sciencecqfd. Alors, comment étudie-t-on ce flux vital? Quelle est l'influence de la bioélectricité sur le fonctionnement physiologique? Et quelles sont les conséquences des troubles de l'électrome? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. Nous sommes en 1975.
Un signal nerveux est toujours extraordinaire. Mais la technique venant, les soucis du chercheur, ça devient quelque chose de banal. Et on oublie qu'il y a de l'extraordinaire. Mais il y a aussi un autre aspect, ce n'est pas extraordinaire en physiologie ou en biologie, parce que bien souvent, on fragmente. On fragmente une réalité pour la faire apparaître. Mais c'est quelque chose de plus que nous faisons ce soir, c'est de rappeler que nous voulons étudier ces signaux viscéraux, ces signaux électrophysiologiques viscéraux chez un homme normal, dans des tranches de temps qui sont celles de sa vie, et ceci exploré en prenant du recul. Vraiment, nous situons sur l'homme normal, chez l'homme normal, et nous avons besoin pour cela de mobiliser beaucoup de disciplines, parce que si nous étudions les fondements d'une réalité qui n'est pas directement appliquée, nous sommes loin de l'action.
Voilà la voix du professeur Thauvenot sur France Inter en 1975. Stéphane Charpier, quels sont ces signaux électrophysiologiques qui sont évoqués là avec enthousiasme dans cette archive?
Bon, déjà, je comprends l'enthousiasme parce que moi, ça fait 40 ans que je les enregistre. Et voir un tracé électrophysiologique sur un oscilloscope, c'est toujours extrêmement fascinant. C'est fascinant déjà parce que c'est beau. C'est beau à regarder. Il y a des belles formes. Et puis, il y a un mystère derrière. Il y a un mystère derrière, c'est-à-dire on n'a pas tout compris, en fait, l'origine de ces signaux. Mais des signaux, il y en a un très grand nombre différents. Alors, on pourrait les énumérer, ça serait un petit peu long, mais très brièvement, il y a deux grands types de signaux dans le système nerveux. Il y a un signal très rapide, très bref, qui dure environ un millième de seconde et qui est présent dans tous les neurones, qu'on appelle un potentiel d'action. Et ce potentiel d'action, c'est celui dont vous parliez tout à l'heure en introduction. C'est un tout petit signal, très bref, qui va parcourir les neurones, l'axone des neurones. C'est un prolongement des neurones qui permet aux neurones de se connecter avec les autres neurones. Et ce signal va permettre la libération de neurotransmetteurs qui vont agir sur le neurone suivant. Et c'est là où l'électricité continue, puisque quand ces neuromédiateurs ont été libérés, ils vont agir sur le neurone suivant en ouvrant des canaux ioniques qui vont laisser diffuser des ions. Et quand on laisse diffuser des ions qui sont des atomes chargés électriquement, on crée un courant. Et ainsi de suite. Et si ce courant est suffisant, eh ben, il va permettre à ce neurone suivant de déclencher lui-même un potentiel d'action, et ainsi de suite. C'est comme ça que se construit l'activité électrique au sein du gigantesque réseau que constitue le cerveau.
Raphaël Rapetimos, est-ce que vous aussi vous êtes enthousiaste à la vue de ce pouvoir électrique du corps?
Oui, oui, bien sûr, parce que, comme l'a dit Stéphane, dans les neurones, on a bien compris le mécanisme. Dans les cellules excitables en général, aussi les cellules cardiaques. Mais il faut bien, comme ça a été mentionné par vous au début de l'émission, il faut bien comprendre qu'en fait, toutes les cellules du corps ont la capacité à générer ces courants. et notamment les cellules épithéliales, hein, qu'on appelle des cellules aussi non excitables, vont mettre en route des mécanismes pour utiliser, peut-être que je vais un peu trop vite tout de suite, mais des différences de potentiel pour créer du mouvement. Et donc on retrouve ça, par exemple, dans la sécrétion d'électrolytes dans les épithélias, les mouvements d'eau, l'absorption de sodium, l'absorption de glucose, d'acides aminés aussi.
On va revenir dans quelques instants dans le détail sur ces mécanismes de biologie cellulaire, mais d'abord pour prendre un peu de recul historique, la bioélectricité, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est resté quand même longtemps négligé, Stéphane Charpie.
Alors, ça a été longtemps négligé, mais on connaît bien l'histoire, en fait, et on a la chance, et c'est assez rare dans l'histoire des sciences, de connaître le jour précis où tout a commencé. Je l'ai noté, parce que j'ai du mal à m'en souvenir de tête. Hein. C'est le 26 janvier 1781. On est à Bologne, dans le laboratoire de Luigi Galvani. C'était un physicien et un physiologiste. Et là, il y avait une expérience en cours. Une grenouille avait été disséquée et un scalpel en métal avait été posé sur le nerf crural. Le nerf crural, c'est le nerf qui connecte le muscle, qui permet aux grenouilles de faire des bonds. Et à ce moment-là, incidemment, un collaborateur de Galvani fait fonctionner une machine électrostatique, tire une étincelle électrique, et Galvani se rend compte qu'à ce moment-là, il y a la patte de la grenouille qui fait un bond. Et là, il a une intuition géniale, parce qu'il comprend deux choses. La première chose, il comprend que l'électricité est capable de stimuler un nerf, et qu'une fois que ce nerf est stimulé, il est capable de provoquer une contraction musculaire. Première chose. Deuxième chose, avec ses suiveurs, ils vont comprendre que non seulement l'électricité peut stimuler les nerfs et les muscles, mais que le phénomène physiologique sous-jacent est lui-même de nature électrique. Et c'est comme ça que naît l'électrophysiologie. Il va falloir attendre. Alors déjà, ça a été une révolution, parce que ça a éradiqué les esprits animaux de Descartes. Donc c'est la vieille physiologie disparaît, la nouvelle physiologie, électrophysiologie survient. Et puis il a fallu attendre 1840 pour qu'un physiologiste allemand, qui s'appelait Émile Dubois-Raymond, identifie pour la première fois ce que j'appelais tout à l'heure les potentiels d'action. Donc il va identifier ces phénomènes électriques très brefs. Et puis dans les années 1950, je vais très vite, hein, mais j'essaie de résumer les grandes étapes. Au début des années 1950, deux physiologistes anglais, Hutchkin et Huxley, vont décrire l'ensemble des mécanismes ioniques à l'origine de ces potentiels d'action. Ils vont même donner une petite équation différentielle qui décrit le fonctionnement électrique des neurones et comment cette activité électrique évolue au cours du temps. C'est une équation qui est toujours extrêmement valable. Je pense que mon collègue sera d'accord avec ça. Et une fois que cette équation a été fixée, on a compris l'origine électrique du fonctionnement du système nerveux. Et à la même époque, John Eccles, lui c'est un neurophysiologiste qui s'intéresse plutôt aux synapses, lui découvre les courants électriques produits par les synapses. Une dernière étape, après je m'arrête. En 1875, un jeune médecin anglais à Liverpool, qui avait été intrigué par les travaux de Dubois-Raymond, se pose la question de savoir si cette activité électrique est aussi présente dans nos cerveaux, dans le cerveau et pas simplement dans les nerfs et les muscles. Il va enregistrer, il met des électrodes sur le cerveau de lapin, et de singe. Et là, il va faire ce qu'on appelle le premier électroencéphalogramme. Donc j'ai fait toute la chaîne nerveuse, vous voyez, depuis le cortex cérébral jusqu'au muscle.
Jusqu'au fameux EEG pour les intimes.
EEG, exactement.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, en effet, avec Galvani qui est un moment phare dans cette histoire-là, Raphaël Rapetit-Mauss. En effet, Galvani, il affirme que la grenouille crée sa propre électricité, qu'il existe donc une électricité d'origine animale, ce qu'il nomme l'électricité animale. Et en face de lui, on a aussi un autre personnage qui s'appelle Alessandro Volta.
Oui, donc là, c'est une controverse qui est aboutie au premier prototype de pile, en fait, puisque Volta est un physicien et qui n'a pas cru à cette électricité animale et qu'il a essayé de mettre en place une méthode scientifique, hein, pour démontrer qu'il avait raison et qu'en fait, le phénomène électrique venait de différences de potentiel dans les métaux qui était raccroché au nerf de la grenouille. Donc, par la suite, Galvani avait fait des expériences où il accrochait le nerf sciatique, si je me souviens bien.
Le nerf sciatique au crural.
Voilà, au crural, à un crochet de cuivre, et il touchait le muscle de la grenouille, de la patte de grenouille, avec une lame en zinc. Et donc, pour Volta, c'était purement métallique. Et lui, il a dit que c'était de l'électricité métallique. Et donc, pour démontrer ça, il a reproduit le système en intercalant des couches de zinc et de cuivre et de papier qui a trempé dans des électrolytes, donc des solutions électrolytiques, du sel en fait. Et donc il a montré qu'il y avait un courant qui passait. Donc il a reproduit en fait le système vivant.
Par la suite, comme vous dites, surtout au début du XXe siècle, que la recherche sur la bioélectricité a véritablement repris. On a donc les premiers oscilloscopes, les EEG. Puis on a aujourd'hui aussi le patch clamp qui est développé au début des années 80. Alors ça, qu'est-ce que ça permet comme technique, Stéphane Charpier ?
Ah, c'est une technique qui a été très importante parce que avant, ce qu'on faisait, parce que quand on voulait savoir ce qui se passait en termes de variation de courant électrique ou de tension électrique à l'intérieur des neurones, on mettait des électrodes à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on utilise encore, mais c'est ce que je fais dans mon laboratoire. Mais il y a une autre manière de faire sans abîmer la membrane. Alors pour ça, il y a des électrodes qui sont pas tout à fait les mêmes électrodes qu'on va poser à la surface des cellules, alors que ce soit des neurones ou des cellules. J'imagine que tu fais du patch clamp aussi.
Oui.
Donc on peut les coller à la membrane. Et puis là, à partir de là, on peut obtenir certaines différentes configurations d'enregistrement. Mais ce que ça permet, et c'est très important, ça permet de mesurer très précisément les différents types de courants qui traversent la membrane des cellules. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier très précisément l'origine ionique de ces différents courants, quelles sont les voies intracellulaires qui vont être mises en jeu ou qui vont contrôler ce type de courant. Ça a été une gigantesque avancée pour comprendre vraiment de manière extrêmement fondamentale le fonctionnement électrique des cellules.
Raphaël Rapetimos.
Oui, et ça a permis aussi de pouvoir caractériser cette énorme diversité moléculaire que représentent les canaux ioniques, hein, puisqu'il y a à peu près 380 gènes qui vont coder pour des canaux ioniques ou leurs sous-unités. Donc ça a permis aussi de caractériser cette diversité moléculaire-là.
C'est que la bioélectricité, elle est particulièrement étudiée où ? Dans les tissus dits excitables, Raphaël Rapetimos ?
Oui, donc... Disons, historiquement, elle est étudiée dans les tissus excitables, donc le cœur, les muscles, les neurones. Et depuis maintenant une quarantaine d'années, hein, on a commencé à travailler sur d'autres tissus. Ça a commencé avec les lymphocytes, où on a commencé à enregistrer des courants dans les lymphocytes, et surtout à montrer que l'inhibition de canaux ioniques dans ces cellules-là, pouvaient avoir des effets sur leur comportement cellulaire, c'est-à-dire leur capacité à proliférer ou à se différencier.
Donc un effet direct sur l'immunité.
Et donc un effet sur l'immunité. Et maintenant, on sait aussi que les flux de potassium, par exemple, sont très importants dans la mise en place de ce qu'on appelle les inflammasomes, qui sont des complexes de signalisation importants dans l'inflammation. Ces travaux aussi se sont intéressés aux épithélias. Et donc ça, c'est tout le travail de Hussing qui a mis en place une technique pour pouvoir enregistrer des courants qui vont traverser l'épithélium. Et donc ça, c'est un gros travail qui a été fait dans les années 50-60 pour comprendre l'importance de ces transports dans des tissus non excitables que sont les épithélias, et donc comment est-ce qu'on va sécréter des électrolytes et de l'eau. Et on en voit l'importance dans des pathologies comme la mucoviscidose, où là on perd cette sécrétion transépithéliale de chlore, ce qui va entraîner la perte d'eau. De sécrétion d'eau, et donc un épaississement du mucus hein, et la pathologie qui en découle.
Vous, dans vos recherches, Stéphane Charpier, vous vous intéressez aux mécanismes fondamentaux à l'origine de ces signaux électriques ?
Oui, alors fondamentaux, pas vraiment en fait. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'établir des corrélations et éventuellement des relations de cause à effet entre l'ensemble de ces différents signaux électriques qu'on peut enregistrer dans un cerveau, dans différentes conditions, soit des conditions normales ou pathologiques, et de pouvoir faire un lien entre la structure de ces signaux électriques, le fonctionnement cérébral, et aussi la relation que ça a avec la fonction. Donc ça permet de construire toute la ligne comme ça de corrélation entre le fonctionnement d'un organe et les différentes fonctions d'un organe. Et ce qui est important pour l'électrophysiologie, alors c'est vrai pour nous et c'est vrai aussi pour toi, excuse-moi,
c'est pas grave,
c'est que ces signaux, on peut les enregistrer en temps réel dans toutes les conditions avec une très grande précision temporelle. À ma connaissance, c'est vraiment la méthode d'investigation physiologique qui est probablement la plus précise et qui permet d'enregistrer en temps réel ce qui se passe dans un système en train de vivre. Hein, c'est la technique qui permet les meilleures résolutions temporelles.
Alors, quelles sont ces méthodes d'investigation, plus précisément, quelle est l'importance fondamentale de la bioélectricité ? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
Clin d'œil à téléphone en direct sur France Culture, car nous parlons de bioélectricité, cette étincelle de la vie ou l'ensemble des phénomènes électriques observés chez les êtres vivants. On en parle avec Stéphane Charpier et Raphaël Rapetit-Mauss. On vient de voir que toutes les cellules du corps génèrent des signaux électriques par l'intermédiaire de leurs membranes. Les cellules qui composent nos tissus et organes communiquent entre elles en utilisant le langage des tensions électriques et des champs électriques. Alors quand on pense à la bioélectricité, on l'associe généralement aux neurones. La bioélectricité dans le cerveau, Stéphane Charpier, c'est quelque chose qu'on observe à plusieurs niveaux d'échelle. On a déjà l'échelle de la cellule. Chaque neurone est comme donc une petite pile vivante.
Alors, on l'a à toutes les échelles, et même à l'échelle qu'étudie Raphaël, c'est-à-dire à l'échelle des canaux ioniques. Donc, il faut imaginer ce que c'est qu'un neurone. En fait, un neurone, c'est comme une goutte d'huile. C'est-à-dire, il y a une membrane qui est une couche de lipides, en fait, dans laquelle se trouvent des petites protéines. Et ces protéines, elles sont soit ouvertes, soit fermées. C'est-à-dire que soit elles peuvent laisser passer du courant ou pas. Ça, c'est la première échelle, c'est au niveau du canal. Donc, il y a des courants qui vont aller dans un sens, puis d'autres qui vont aller dans un autre sens. Et ça va avoir un effet fonctionnel différent sur le fonctionnement des neurones, mais aussi sur d'autres types de cellules. À une autre échelle, c'est la cellule dans sa globalité. À ce moment-là, il y a deux types d'activités différentes qui vont être produites. Une activité continue, qu'on appelle techniquement le bruit synaptique, et qui correspond au fait que chaque neurone, en fait, est connecté par un très grand nombre de synapses. Et chacune de ces synapses va produire un petit courant à travers la membrane, environ une centaine de picoampères, c'est-à-dire un picoampère, c'est 10 moins 10 ampères, c'est tout petit courant. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de synapses. Donc il y a une très grande quantité de courant qui vont être intégrés par le neurone, ça va créer des variations de tension électrique entre l'intérieur et l'extérieur du neurone, donc ça fait fluctuer ce qu'on appelle techniquement, tous les deux Raphaël, le potentiel transmembranaire. Ça c'est un signal continu. Et puis quand ce signal transmembranaire atteint un certain niveau d'amplitude, d'intensité, à ce moment-là le neurone peut déclencher un événement singulier qui est le potentiel d'action. Et là le neurone il passe à un autre mode de codage. Vous voyez, on passe à un mode de codage continu, analogique, un peu comme un disque vinyle, vous voyez, à un mode de codage en mode CD avec des 1 et des 0. Le 1 étant un potentiel d'action, le 0 étant je ne fais pas de potentiel d'action. Et cette information qui est codée par chacun des neurones, va être transmis aux autres neurones. Quand je dis aux autres neurones, c'est-à-dire aux 100 milliards de neurones que nous avons. Enfin, chaque neurone n'est pas connecté avec tous les autres, mais enfin, il va y avoir cette gigantesque toile, comme ça, de cellules interconnectées qui vont générer, à toutes les échelles, ces deux types de signaux. Et quand on enregistre, par exemple, si on prend l'échelle la plus grande en faisant un électroencéphalogramme, simplement en posant une électrode à la surface du crâne, là, on va enregistrer des signaux qui fluctuent aussi en fréquence et en intensité. Et là, ce qu'on récupère, en fait, c'est l'activité collective de toutes les synapses qui sont présentes à l'intérieur du cortex cérébral. Donc, toutes les échelles existent en termes de signaux électriques avec des significations différentes entre l'électroencéphalogramme et l'activité d'un canal ionique unique.
Oui, donc vous avez accès à des dynamiques collectives complexes.
Pardon ?
Vous avez accès à des dynamiques collectives complexes.
Exactement, et c'est ça qui est un peu, ça c'est un des buts des neurosciences actuelles, c'est essayer de comprendre non pas simplement comment est réalisé le codage dans un neurone, c'est déjà une information considérable, mais c'est essayer de voir comment les neurones coopèrent entre eux pour pouvoir générer un certain pattern d'activité qui contient intrinsèquement une certaine dynamique, et c'est souvent comme ça que ça se passe, ce sont les dynamiques cérébrales dans différentes régions du cerveau et les relations qu'elles ont entre elles qui vont donner du sens, en fait, à ce que le cerveau est en train de faire. Si vous m'entendez en ce moment, si vous m'écoutez, c'est parce que vous êtes capable d'intégrer de l'information sensorielle. Là, il y a un codage en 0 et 1 dans les nerfs qui vont permettre à votre cerveau de recevoir l'information auditive. Mais après, cette distribution va être distribuée dans le cerveau au niveau d'une zone qui vous permet d'entendre, puis après d'autres zones qui vous permettent de comprendre, et après d'autres zones qui vous permettent d'apprécier et de mettre en contexte ce que je suis en train de dire. Et tout ça peut être décodé par l'activité électrique cérébrale.
Raphaël Rapetimous.
Oui, alors dans les cellules non excitables, ça va être un peu différent, parce que là, on n'a pas ces fortes variations de potentiel de membrane. Alors c'est vraiment nouveau cette idée que, en fait, une cellule non excitable pourrait changer son potentiel de membrane, qui ne serait pas fixe pour toute la vie de la cellule. Hein. Ce qu'on sait, c'est que au cours de la division cellulaire, le potentiel de membrane passe par des phases de dépolarisation, donc c'est-à-dire que le potentiel va s'écarter du potentiel d'équilibre du potassium qui est autour de moins 70, moins 80 millivolts pour aller vers un potentiel plus proche de 0 millivolts, et des phases d'hyperpolarisation, donc de retour au potentiel de repos. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pu accumuler comme données depuis comme je disais tout à l'heure, les 40 dernières années. Maintenant, les questions auxquelles on essaie de commencer à répondre, c'est est-ce que dans d'autres conditions que le cycle cellulaire, des variations de potentiel de membrane pourraient exister dans des cellules non excitables et quelles seraient leurs fonctions ? Il y a d'autres phénomènes qui font intervenir, hein, ces variations de potentiel de membrane dans les cellules non excitables, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est dans les épithélias. Et donc dans ces mécanismes de transport vectoriel, pour faire entrer des électrolytes ou des substances comme les acides aminés ou glucose, comme je disais, de l'extérieur, donc du lumen de l'intestin par exemple, vers le côté séreux. Donc là on peut moduler alors peut-être qu'il faut que je précise un point, c'est que dans les épithélias, la membrane apicale, c'est-à-dire qui est tournée vers la lumière, de l'organe, et la membrane basolatérale, donc qui est tournée vers le côté interne, on va dire, n'ont pas le même potentiel. Et ça, cette ségrégation de potentiel est possible grâce à des structures cellulaires qu'on appelle des jonctions serrées et qui vont isoler électriquement les deux membranes. Et grâce à ce système de différence de potentiel entre ces deux membranes, on obtient une différence de potentiel transépithélial, donc à travers l'épithélium, qui va servir de force motrice pour faire passer des électrolytes et entraîner des mouvements d'eau.
On a donc vous venez d'évoquer en effet le rôle de la bioélectricité en biologie cellulaire, hein, quelque chose d'exploré depuis en effet 40 ans, notamment par un scientifique comme Michael Langevin, de la Tufts University, qui est très médiatisé à ce sujet. Et on découvre aussi assez récemment que l'électrome est quelque chose qui orchestre la morphologie, parce que ça a un rôle très important pendant la morphogénèse. Raphaël,
oui, donc c'est effectivement la théorie qui est défendue par Michael Levin. C'est un peu plus récent, c'est une vingtaine d'années, hein, il a commencé même 25 ans maintenant, en 2000 à peu près, où en fait il a montré que en manipulant le potentiel de membrane finalement, hein, en insérant des canaux ou des dominants négatifs, donc c'est-à-dire des protéines qui vont empêcher l'activité de certains canaux, il arrivait à moduler donc cette activité électrique et à créer des organes ectopiques. Donc ectopiques, c'est-à-dire qui sont situés à des endroits où ils ne devraient pas être. Donc il a fait ça avec des embryons de poissons, où il a créé un œil à l'endroit où il ne devait pas être, par exemple. Hein. Donc il y a cet exemple-là qui est intéressant. Il y a un autre exemple, je pense, qui résume bien la philosophie de Michael Levin, c'est les travaux qu'il a fait sur les planaires. Donc les planaires, c'est des vers plats qui vivent dans l'eau salée ou dans l'eau douce. Et en fait, il a utilisé ces planaires qui ont une capacité de régénération. Donc par exemple, si on coupe la tête ou la queue d'un planaire, il va pouvoir régénérer une tête ou une queue. Et ce qu'a montré Levin, c'est que en manipulant le potentiel de membrane, donc en forçant une dépolarisation, par exemple, à l'endroit où il avait coupé la queue, le planaire recréait une tête. Donc on a des planaires à deux têtes, parce qu'on a modifié le potentiel de membrane. Alors ça, c'est intéressant. Là où je disais que peut-être sur la mémorisation des phénomènes, c'est qu'il a aussi montré que Si on recoupe un planaire qui a été mis dans des conditions de dépolarisation, par exemple, sans ces conditions de dépolarisation, il va repousser deux têtes. Donc il y a comme une mémoire, en fait, de cette modification du circuit électrique. Par contre, là où il faut continuer à travailler, hein, c'est qu'on ne connaît pas du tout, au niveau moléculaire, les mécanismes qui vont rentrer en jeu pour aboutir à ce genre de reprogrammation de voies de signalisation et de programmes de régénération.
Se faire pousser deux têtes grâce à la bioélectricité, en tout cas ça laisse rêveur. Il y a cette autre étude où on voit que la stimulation électrique sur des cellules souches a permis à ces cellules souches de se différencier en tissu osseux ou nerveux par simple stimulation électrique. Ça va dans le sens de tout ce qu'on est en train de raconter. Du côté de la morphogénèse cérébrale, Stéphane Charpier, quelle est l'importance de l'électricité cellulaire dans le développement du cerveau ?
C'est pas aussi simple, je dirais. Parce que, en fait, l'activité électrique par elle-même ne va pas, enfin, sauf si tu peux, Raphaël a des informations là-dessus, je suis pas sûr que l'activité électrique par elle-même va avoir un effet sur le développement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au cours du développement, les propriétés électriques des neurones, l'excitabilité des neurones, par exemple, c'est-à-dire leur capacité à pouvoir être stimulée dans une condition donnée par un stimulus donné, la valeur de ce que Raphaël disait tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur du potentiel membranaire, c'est-à-dire la différence de tension électrique entre l'intérieur et l'extérieur du neurone, le nombre de connexions synaptiques capables de créer du courant, tout ça évolue au cours du développement. Mais ça évolue au cours du développement dans un cerveau normal, mais ça évolue aussi au cours du développement dans un cerveau qui va devenir malade. Et ça a été montré dans le cas d'épilepsie, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a montré dans notre laboratoire, c'est-à-dire que on peut naître avec un cerveau normal, donc qui va montrer d'un point de vue du phénotype des activités électriques tout à fait normales, physiologiques. Puis au cours du développement, il va se passer des choses qu'on n'a pas forcément bien comprises, ce qui fait que il va y avoir des propriétés nouvelles, anormales, électriques, qui vont survenir dans les neurones ou dans la membrane des neurones ou au niveau des synapses. Et là, ça va transformer complètement les propriétés fonctionnelles des neurones et des réseaux de neurones qui, du coup, vont aller dans une direction qui va être une direction pathologique. Et ça, c'est très important, parce que c'est vrai dans ce que tu dis, Raphaël, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble du cerveau. C'est-à-dire que si on manipule incorrectement, je mets manipuler entre guillemets, bien entendu, des réseaux de neurones sur leurs propriétés électriques, on peut très facilement les conduire vers des conditions pathologiques. Donc ça peut participer directement, mais ça va aussi suivre, ça va accompagner le développement normal du cerveau.
Quelles sont ces maladies qui sont liées à des dysfonctionnements électriques ? Restez avec nous, on y vient.
You could get electric shock from my floor. Bitches on my dick, oh no. They on my dildo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. I get the money, money, I get do. EQ the equalizer for the stereo. Na 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 na, na 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 na. We the blast masters, the radiation. International, coming to your nation. Feel it, feel it, feel it, feel it, vibration. We kill it, kill it, kill your radio station. Kill it with the sound, kill it, kill it. City, electric, city, electric.
Electric City, les Black Eyed Peas en direct sur France Culture, car nous parlons de bioélectricité, ce processus naturel complexe. On en parle avec nos deux invités du jour, Stéphane Charpier, électrophysiologiste, directeur de recherche à l'Institut du Cerveau de Paris et professeur de neurosciences à Sorbonne Université, et Raphaël Rapetimos, biologiste chargé de recherche CNRS spécialisé dans l'étude du cancer à l'Institut de biologie Valrose. On vient de voir que la bioélectricité est un signal d'instruction omniprésent pour la physiologie cellulaire, pour le développement embryonnaire et pour la régénération. À présent, parlons du contexte pathologique, des maladies, des troubles. Quels sont, Raphaël Rapetimos, ces pathologies ou ces troubles qui sont liés justement à des dysfonctions, des dysfonctionnements électriques? On a évoqué assez rapidement en début d'émission le cas de la mucoviscidose.
Voilà, donc la mucoviscidose, en fait, c'est une mutation, c'est dû à une mutation perte de fonction sur un canal chlore, qui est le CFTR. Et donc là, on est dans le contexte des cellules non excitables, donc on ne va pas avoir d'effet sur des potentiels d'action ou des choses comme ça, mais sur du transport. Donc cette autre fonction des canaux et des différences de potentiel. Donc cette perte d'activité du canal chlore va empêcher l'eau et le sodium de passer du côté luminal. Donc, à cause de cette perte de fonction, l'eau ne passe plus, il y a une déshydratation du mucus, un épaississement de ce mucus et une surinfection qui va se produire dans les voies aériennes des patients. Mais on sait aussi que le CFTR est présent dans tous les épithéliats. Donc, ces problématiques vont s'accompagner de troubles d'absorption, de la malabsorption au niveau intestinal, une hypofertilité aussi au niveau des canaux déférents qui ont le même mécanisme, qui vont fonctionner sur des transports d'eau. Aussi au niveau du pancréas, parce que la sécrétion d'insuline est contrôlée par un phénomène électrique. Donc en changeant le potentiel de membrane des cellules bêta pancréatiques, donc cette perte de CFTR entraîne ce changement de potentiel de membrane et limite la sécrétion d'insuline.
Stéphane Charpier, comme on l'évoquait il y a quelques instants, il y a certaines pathologies comme l'épilepsie présentent donc une signature électrique caractéristique.
Un très grand nombre de pathologies neurologiques en fait ont une signature électrique. Et cette signature électrique, elle est non seulement intéressante parce qu'elle constitue un outil diagnostique. Par exemple, je m'excuse, mais si je mettais une électrode sur votre cerveau et que je vois certains types d'activités,
je pourrais
dire que vous seriez peut-être épileptique. Parce que même si vous n'êtes pas en train de faire une crise d'épilepsie, le fait d'en avoir fait avant peut laisser une trace électrique dans votre cortex cérébral et je pourrais éventuellement la détecter en dehors de la crise. Donc c'est à la fois une signature, mais c'est aussi un reflet de ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire des mécanismes par lesquels la pathologie du cerveau va se révéler, va se construire progressivement. L'épilepsie est un cas, mais il y a beaucoup d'autres pathologies neurologiques, comme par exemple les comas. Il y a différents types de comas où on a des troubles plus ou moins profonds de la conscience. Et on peut aussi les associer à des modifications de l'activité électrique qu'on enregistre dans un électroencéphalogramme. Et puis, il y a la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, elle aussi, même si ce n'est pas intuitivement, quand on ne connaît pas bien, ce n'est pas directement lié à des modifications électriques, on pense plutôt à la dopamine, oui, mais il y a aussi des corrélations qu'on peut faire entre l'expression clinique de la maladie et des modifications de l'activité électrique spontanée au sein du cerveau. Donc en fait, il y a plein de pathologies comme ça qui sont associées, mais pas simplement, c'est pas simplement une signature, c'est aussi un indice en fait des mécanismes de la maladie.
Alors justement, ces dysfonctionnements bioélectriques, est-ce qu'ils sont symptômes ou conséquences? Dans le cas des comas profonds, par exemple.
Oui, c'est la conséquence de modifications qui ont eu lieu dans les différents systèmes qui contrôlent les propriétés électriques des neurones et du cerveau, qui vont être responsables d'un dysfonctionnement fonctionnel des neurones. Et le fait que ces propriétés électriques ont été modifiées, ça va aussi modifier les signaux électriques qu'on peut enregistrer chez un patient. Oui, je pense qu'il faut voir plutôt les choses comme ça. Il y a des mécanismes sous-jacents. ça conduit à des modifications électriques qu'on peut enregistrer. Et puis, et ça, ça nous donne aussi un indice des mécanismes de la pathologie en question.
Parce que, par exemple, dans le cas des comas profonds, on a donc un électroencéphalogramme entièrement plat qui ne présente aucune activité électrique.
Oui, alors ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, c'est toujours dans beaucoup de films un moment critique quand on voit dans une salle d'opération ou une salle de réanimation un tracé plat, on entend un bip en même temps, etc. Et on dit « Ah, moi, c'est une catastrophe », etc. C'est pas forcément une catastrophe. Un électroencéphalogramme plat, ça signifie uniquement... Je dis bien uniquement que l'activité spontanée à l'intérieur du cerveau s'est arrêtée. Spontanée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les neurones ne sont plus capables de déclencher des potentiels d'action. Les neurones n'ont plus des synapses qui fonctionnent. Donc, il y a une sorte de repos de l'activité électrique. Mais ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette existence d'un potentiel électrique transmembranaire, il persiste au sein des neurones. Et en fait, nous, ce qu'on a montré dans le laboratoire, c'est que dans certains types de comas extrêmement profonds avec un électroencéphalogramme qui est plat, les neurones, eh ben, ils conservent leur potentiel électrique de part et de la membrane et aussi leur capacité à être excités. C'est-à-dire, on peut, et c'est un peu contre-intuitif, on peut être dans un coma extrêmement profond, c'est ce qu'on a montré, et en même temps, eh ben, être stimulé par une stimulation sensorielle, par un bruit, le fait de toucher un patient, on a montré simplement lui caresser la peau, hop, ça va produire en fait une activité électrique qu'on peut enregistrer en surface du cerveau. Mais, et c'est ça qui est intéressant en termes de dissociation entre ces phénomènes électriques et le fonctionnement cérébral, c'est que ça n'est pas, c'est un peu compliqué, mais ça n'est pas parce que on peut enregistrer un signal électrique en réponse à une stimulation sensorielle chez un patient dans le coma que le patient en question ressent quelque chose. Car ce qui va être important, c'est le bruit de fond électrique du cerveau. Le cerveau est un système qui produit un bruit de fond électrique permanent. Là, on est quatre dans le studio, là, plus vos collègues derrière la vitre. On a tous un cerveau qui bouillonne en électricité et il y a des fluctuations permanentes et c'est ça qui fait que nous sommes tous conscients et capables de s'écouter, de se comprendre et de se regarder dans les yeux.
Parler de ce bouillonnement permanent, vous avez aussi évoqué le repos, je pense au grand repos qui est celui de la mort. En électrophysiologie, on peut aussi enregistrer l'activité électrique d'un cerveau en train de mourir. Et là, on observe une activité électrique assez surprenante.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on a montré il y a quelques années. Alors, vous m'aviez invité d'ailleurs pour discuter de ça.
Exactement.
Il y a quelques temps.
Et... le podcast Mort cérébrale, le clap de fin que je vous invite à podcaster.
Voilà, très bonne suggestion. Oui, en fait, ce qu'on a montré, c'est que un cerveau en train de mourir, par exemple, après un arrêt cardio-respiratoire, la première chose que l'on peut voir, en fait, que l'on peut étudier directement, c'est les modifications justement de l'activité électrique. Alors, si on fait simplement un électroencéphalogramme, la première chose que l'on va voir, et c'est très contre-intuitif aussi, c'est-à-dire, ce que l'on voit, c'est une augmentation d'activité. Comme si la personne qui était en train de mourir et qui ne répondait pas aux stimulations, donc qui était déjà dans le coma, avait une activité qui est la nôtre en ce moment. C'est-à-dire une activité d'éveil, conscient et même attentif. C'est très contre-intuitif. Et puis cette activité, elle se ralentit, ça se met à osciller lentement, il y a des ondes lentes, et puis ça devient plat, comme on disait tout à l'heure, mais là, c'est pas le même plat. Ça, c'est un plat un peu plus mortifère. C'est un mauvais plat, je dirais. Parce que ce plat-là, il est dû au fait que, justement, le neurone va perdre ses propriétés d'excitabilité. Et puis, on va perdre ce dont on parle depuis le début, qui est la clé, c'est-à-dire ce potentiel de membrane va disparaître. Et là, ça va créer un grand courant dans le cerveau et créer une onde en surface qu'on a appelée l'onde de la mort.
Voilà, et si tout va bien, si une réanimation est tentée et réussie, on observe l'onde de la réanimation qui marque le redémarrage de l'activité
Exactement.
Cérébrale. Alors là, après le cerveau, parlons du cœur, c'est le reportage. Et aujourd'hui, dans le reportage, on va parler donc de ce cœur qui est un organe qui fonctionne par l'action d'un flux nerveux. Et le dysfonctionnement de son rythme peuvent induire des troubles comme les insuffisances cardiaques et tachycardie. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allée à l'unité de rythmologie de l'Institut de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour découvrir une méthode chirurgicale innovante pour soigner ces troubles.
Oui, comme la fibrillation atriale qui nécessite une ablation par cathéter, ce qui est souvent très lourd pour les patients. Mais la technique usuelle par électroporation évolue par l'usage de cathéters radiofréquences couplés à des capteurs multi-électrodes. Alors, l'avantage, c'est de pouvoir dresser des cartographies 3D du cœur en temps réel et haute densité, offrant ainsi un gain de précision pour aller cibler les zones à neutraliser. Le cardiologue et rythmologue Guillaume Dutoit nous amène à découvrir ces méthodes directement au bloc opératoire.
Et nous avons un souci de console. On parlait de coma il y a quelques instants. Je crois que notre console technique fait un petit arrêt. Je suis désolée, Céline Lausanne. Bon, eh bien pour le cœur, on va mettre ce cœur en attente. On va revenir dans quelques instants. Je suis désolée, Céline Lausanne, et je suis désolée aussi auprès de nos auditeurs et de nos auditrices. Je vois que derrière notre vitre, la régie s'impatiente. Nous avons donc une mort cérébrale technique. Ce n'est pas grave. On continue toujours sur ces aspects de contexte pathologique. Et on peut parler également de vos travaux, Raphaël Rapetimos. Alors là, on part plutôt du côté de la cancérologie. Et vous travaillez notamment sur le cancer du pancréas et sur le rôle des canaux ioniques des cellules cancéreuses. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a valu votre médaille de bronze du CNRS.
Donc en fait, les travaux qu'on a réalisés, bon, c'est des travaux qui s'inscrivent dans le travail du laboratoire depuis une dizaine d'années maintenant. Et ce qu'on a montré, c'est dans ce papier en particulier par rapport au pancréas, c'est que la communication qui existe entre les cellules tumorales et les cellules du micro-environnement, qui sont des cellules de type fibroblastique qu'on appelle les CAF, pour Cancer Associated Fibroblast, vont communiquer par des signaux sécrétés par les CAF. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les cellules tumorales pouvaient capter ces informations via un système de signalisation qui fait intervenir un canal potassique qu'on appelle SK2 et qui est un canal potassique activé par le calcium. Et ce qu'on a vu, c'est que ce canal, il est associé avec des intégrines et le récepteur à l'EGF et tous ces partenaires sont mis ensemble grâce à une protéine chaperone qui est le récepteur sigma 1. Donc c'est une protéine qui chaperonne plusieurs types de protéines transmembranaires. Et donc si on inhibe soit sigma 1, soit l'activité du canal, on diminue fortement la formation de métastases hépatiques dans le pancréas. Donc on a testé donc un inhibiteur de ce récepteur, hein, sigma 1, et on a largement amélioré la survie de cellules modèles de cancer du pancréas. Voilà. Donc,
je peux lui poser une question?
Je vous en prie, allez-y.
Est-ce que vous avez fait ça in vitro ou in vivo? Vous avez
fait la preuve de concept in vitro, et ensuite on a passé in vivo chez des souris dans un modèle de cancer.
Donc ça marche comme ça aussi.
Et donc ça marche chez les souris. Oui.
Donc en fait, cette stratégie, voilà, qui consiste à cibler directement les canaux ioniques, ça peut. Bon, là, on est sur de la recherche très fondamentale.
Ouais. Donc mais... là, ça cible l'activité du canal aussi, hein, qui est inhibée. On a montré l'inhibition de l'activité du canal.
Parce que lorsqu'on étudie finalement les propriétés bioélectriques des tumeurs malignes, qu'est-ce qu'on observe finalement dans leurs caractéristiques?
Alors, ça dépend. On sait maintenant que les cellules cancéreuses vont avoir un potentiel de membrane plus dépolarisé. Donc, ça veut dire qu'elles ont changé le jeu de canaux qu'elles exprimaient. Donc, certains se sont éteints, c'est ce que je vois dans mon autre étude concernant le canal KCNQ1, qui d'ailleurs est un canal cardiaque aussi. Donc là, c'est un canal qui est important pour le maintien de l'homéostasie des cellules épithéliales. Et on peut voir aussi une apparition de l'expression de canaux ou de l'augmentation de leur activité dans d'autres types de cellules tumorales. Donc on a ces deux tableaux. Certains canaux qui sont surexprimés ou suractivés, et d'autres qui sont sous-exprimés ou sous-activés. Et en fait, globalement, on va changer la signature électrique des cellules tumorales.
Alors, quelles sont les perspectives et potentiels thérapeutiques liés à l'électrome? Restez avec nous. Et nous avons récupéré notre reportage du jour avec vous, Céline Lausanne. Un petit mot avant de pouvoir l'écouter.
Oui, bonjour Natacha. Alors oui, ce reportage va porter sur la fibrillation atriale qui est maintenant abordée via des nouvelles techniques, notamment la cartographie 3D qui est couplée avec des capteurs multi-électrodes de manière à pouvoir sonder dans le cœur avec des cathéters en temps réel.
On est au milieu donc d'un département de cardiologie où on retrouve toutes les spécialités et on fonctionne avec donc l'unité de rythmologie dans laquelle il y a des lits de soins intensifs de rythmologie et des lits d'hospitalisation conventionnels. Dans ce plateau technique, il y a des poses de pacemaker et de l'électrophysiologie cardiaque, donc qui permet de faire les explorations électrophysiologiques et les ablations de tachycardie au sein de deux blocs dédiés uniquement à l'électrophysiologie. Ici au premier, donc il y a la radiologie avec le scanner, l'IRM, la radiologie interventionnelle. Et ici donc c'est le plateau technique invasif. Donc on voit ici qu'on est dans la salle de contrôle. Donc on a un outil multimodal. On a ici le scope de l'anesthésiste avec les paramètres vitaux. On a l'écho, donc qui est l'écho transœsophagien. Donc là pour une ablation de FA. On va s'assurer, donc le patient est en fibrillation, qu'il n'y a pas de caillot dans l'oreillette avant d'aller de l'oreille droite à l'oreille gauche par ponction transseptale. Ici, on a l'écran de radioscopie. Donc, on va pouvoir réarranger comme on souhaite tous les écrans. On peut mettre ici l'image en live. Et puis, vous voyez, donc là, elle a fait son transseptal déjà. Donc là, on a le guide. Ensuite, avec le guide, on va pouvoir amener la gaine ou l'introducteur sur ce rail de guide, et ensuite on va pouvoir insérer le cathéter qui délivre le traitement dans cette gaine.
Parmi les instruments que vous déployez pour les tachycardies, par exemple, il y a l'instrument Rythmia. Comment il fonctionne et quelles sont ses caractéristiques?
Alors Rythmia est une évolution sur plusieurs décennies des systèmes de cartographie qui permettent d'analyser le signal électrique cardiaque en se basant sur une référence électrique. On a, par exemple, dans une cavité, on pose une référence électrique et qui va détecter le rythme normal et le placement du potentiel à un moment donné par rapport à cette référence, on va pouvoir bâtir des cartes de couleurs avec des codes couleurs qui permettent d'avoir une idée de comment se propage l'influx au sein de la cavité cardiaque qui est explorée et éventuellement autour de barrières physiques, les anneaux des valves, les veines ou certaines cicatrices qu'on retrouve dans, par exemple en post-infarctus.
Le cathéter de Rythmia possède combien d'électrodes pour se figurer un peu en
ordre? 64 électrodes.
Ils sont unidirectionnels, je crois.
C'est ça. En fait, il y a différentes branches sur le cathéter qui est une sorte de cathéter donc, qui peut s'aplatir et qui se met en forme de ballon de rugby ou en boule. Et donc, on va pouvoir rentrer plus ou moins dans des petites veines ou des cavités. Et ça va permettre justement de recueillir le volume de la cavité et ensuite d'annoter sur ce volume des renseignements concernant l'amplitude du signal. Un signal très ample est un signal normal. Un signal très petit va être un signal de cicatrice. Et on peut aussi, sur ce même point, dans ces trois dimensions, annoter des renseignements concernant le timing de survenue de ce potentiel.
Donc c'est aussi des cartes temporelles, finalement,
qui va,
quatre
exactement,
dimensions.
Exactement, il y a une quatrième dimension qui est le temps.
Ce qui est important quand on veut étudier la variation du flux depuis, je sais pas, le nœud sinusal jusqu'à...
Exactement, ce qui permet de voir un petit peu la progression de l'influx électrique et de voir s'il y a des zones, non seulement d'avoir une idée de la progression, mais aussi des zones de ralentissement. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est ces ralentissements qui sont le lit des tachycardies. En fait, pour avoir une tachycardie, on a besoin d'avoir une zone à conduction normale et une zone à conduction lente pour pouvoir faire en sorte que ça se mette à tourner et que ça se mette à se perpétuer. Donc ça, c'est la fibrillation vue de l'intérieur. Donc ça fibrille dans la veine. Et donc on applique le courant donc là, d'électroporation. Donc c'est, ça rend les membranes des cellules poreuses en quelque sorte. Et en fait, juste après l'application, le signal est déjà très amorti. Donc là, on a écrasé tout le signal. Et après, donc, on va tourner autour du cathéter. On va faire 4 à 8 applications par veine. Et on va bouger de veine. Et ensuite, on va vérifier que c'est bien bloqué. Alors, il y a la révolution de la cartographie il y a 25 ans. Et là, aujourd'hui, on vit une autre révolution qui est l'électroporation. C'est un changement d'énergie. Ça va plus vite, ça ablate mieux, il y a moins de risques. Et là, vous voyez, on utilise le carto, la reconstruction 3D du scanner avec l'outil Biosense, donc l'outil carto. Donc on a extrait les images et donc ça nous permet de nous repérer. Avec ça sous les yeux, on se dit ok que la veine supérieure gauche est ici, donc on va aller la chercher plus facilement. Et pareil, donc on va pouvoir manipuler notre cathéter sous rayon X, mais avec les indications du scanner. Voilà. Oui, en fait.
Alors là, sur l'échographie, on peut voir.
Il y a l'oreillette droite. Donc là, on est derrière les oreillettes. On voit qu'il y a beaucoup de contraste dans l'oreillette gauche. Donc il y a un état un peu pré-thrombotique. Donc c'est pour ça que ce sont des patients qui sont anticoagulés. Oui, c'est une espèce de volute là, qui stagne. Donc là, il n'était pas content. Il n'a pas réussi à se mettre bien dans la cloison. Donc il est remonté là-haut. Il va refaire la descente pour essayer de tomber pile poil dans cette zone fine là, qui s'appelle le foramen ovale, qui monte dans la veine cave supérieure. Donc là, sur radioscopie, il descend. Tac.
Là, peut-être. Tu vois, on voit un petit peu.
T'es un peu haut, non, Étienne, non?
Je trouvais que t'étais mieux tout à l'heure. Voilà,
on doit c'est la même. Voilà,
t'es trop bas. Tu vois, là, je suis beaucoup plus bas.
Là, t'es trop bas, là, mais c'est entre les deux.
Ouais, je suis pas. L'oreillette est vraiment grosse, je vais sentir un descendre,
un truc. Ah, là, t'es bon, là.
Là, tu vois quelque chose.
Ouais, là, t'es super, là.
Ouais,
top. Vous voyez, là, il est en appui là, sur la cloison. Donc là, il va mettre une aiguille, voilà. Il y a des bulles, là. Il a sorti l'aiguille.
Magnifique guidage, merci.
Et donc voilà, donc là il peut amener son guide comme on a vu tout à l'heure.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Stéphane Charpie, on arrive gentiment mais doucement vers la fin de cette discussion, mais pour ouvrir justement les horizons, quelles sont les pistes, les nouvelles médecines électromiques?
Alors, en fait, ce qu'on a vu, c'est que le cerveau et même d'autres cellules non excitables produisent des courants électriques, et ces courants électriques sont en relation avec leur fonctionnement ou leur dysfonctionnement. Donc il y a une technique, en fait, il y a des techniques qui peuvent être utilisées, et qui sont utilisées certaines avec un succès extrêmement important, qui consiste à moduler ces activités électriques directement. Alors, il y a différentes choses qui ont été faites. On connaît depuis très longtemps la stimulation profonde, ce qu'on appelle pour la maladie de Parkinson, qui consiste à implanter chez des patients une électrode en profondeur dans le cerveau et qui va contrôler une région un peu centrale et qui permet de rétablir des mouvements normaux chez ces patients. Et puis aussi, on peut faire, c'est quelque chose qui va se développer, je pense, dans l'avenir et qu'on a commencé à faire dans le laboratoire, c'est-à-dire que d'utiliser des techniques de stimulation, mais non invasives. C'est-à-dire, ça ne sert plus peut-être à grand-chose de pénétrer le cerveau, d'ouvrir la boîte crânienne et de mettre des électrodes dans le cerveau, mais peut-être simplement en stimulant légèrement en surface, afin de moduler délicatement cette activité électrique. Je donnais un exemple qu'on essaye de développer, c'est le fait de faire des stimulations magnétiques. Alors, quand on dit stimulation magnétique, on croit que c'est autre chose, mais une stimulation magnétique, ça n'est rien d'autre, finalement, l'effet produit que des stimulations électriques qui vont être réalisées. Et si on vient perturber par des stimulations magnétiques fait à la surface du crâne l'activité de certains neurones, on va modifier leur excitabilité, leur capacité à être excités, et on peut comme ça prévenir certaines pathologies, et en particulier certains troubles neurologiques, notamment l'épilepsie, si on est capable de diminuer l'excitabilité des neurones. On a des indices dans des conditions physiologiques que certaines stimulations magnétiques à basse intensité, très basse intensité, peuvent diminuer l'excitabilité des neurones. Donc si on transfère ça, c'est ce qu'on fait dans la recherche, c'est ce que fait Raphaël, c'est ce qu'on fait aussi, si on fait des observations dans des conditions physiologiques, et on essaie de prédire l'effet que ça peut avoir dans des conditions pathologiques. Alors on teste et on essaie de voir si ça marche. Mais les activités électriques sont une bonne piste.
Il y en a aussi d'autres approches qui explorent l'utilisation des champs électriques pour imposer un changement du potentiel de membrane, les médicaments qui agissent sur les canaux ioniques. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette discussion. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbo, mais je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que votre ouvrage, Stéphane Charpie, Le cauchemar de Descartes, aux éditions Albin Michel, vient de paraître et qu'il est disponible dans toute bonne librairie. Et tout de suite, on reste dans la biologie cellulaire, mais du côté du plancton marin et des microalgues, c'est la chronique avec science.
Comment un plancton vole-t-il les organes d'une algue? Il faut savoir que les interactions des planctons sont nombreuses. Ces organismes, souvent unicellulaires, flottent à la surface des océans et il leur arrive d'établir des partenariats avec les micro-algues. C'est ce qu'on appelle des symbioses. Ces algues possèdent des chloroplastes, un organite cellulaire qui transforme l'énergie solaire en sucre et en lipides. Le plancton tire à leur profit de cette photosynthèse, prend ses nutriments et en retour protège les algues de prédateurs ou de pathologies. C'est donc à double sens, mais il existe une forme d'interaction pas du tout mutualiste, sans aucune réciprocité, c'est la kleptoplastidie. Johan Decelle est chercheur CNRS dans le laboratoire physiologie cellulaire et végétale à Grenoble.
La kleptoplastidie, klepto du grec veut dire vol. C'est une stratégie pour avoir de l'énergie qui est assez répandue dans les écosystèmes aquatiques. Au niveau des hôtes multicellulaires, on a des limaces de mer qui broutent des algues et qui digèrent toutes les algues sauf les chloroplastes, ces petites machines à fabriquer de l'énergie grâce au soleil. Donc ça, c'est très répandu. Et aussi dans le plancton marin, on a cette stratégie où des cellules hôtes vont absorber une algue et garder juste le chloroplaste. La rétention du chloroplaste varie selon l'organisme, de quelques jours à quelques mois. On étudie la kleptoplastidie parce que, alors déjà au niveau écologique, cycle du carbone, c'est très important, ça rentre dans les contributions biogéochimiques des océans. Et puis aussi, du point de vue évolutif, on pense que ça a été une étape importante de l'acquisition d'un chloroplaste chez les eucaryotes. On sait que les chloroplastes ont été très voyageurs. Donc on pense que la kleptoplastidie, à l'heure actuelle, dans nos océans, peuvent nous fournir des informations sur ce qui s'est passé dans l'évolution il y a quelques centaines de millions d'années. C'est une fenêtre évolutive sur ce processus qui a été extrêmement important et qui a changé notre atmosphère.
Ce cambriolage marin est assez répandu dans les écosystèmes, mais il manquait à comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur des cellules, notamment comment l'hôte accueille et manipule ces organites étrangers. C'est ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude parue dans Current Biology et dont ce chercheur est le dernier auteur. Et pour cela, il faut recréer les conditions propices à ce vol d'organes en laboratoire. Les scientifiques ont mis ensemble un plancton et une micro-algue isolée en Antarctique. L'originalité de l'étude et d'avoir eu recours à de la microscopie subcellulaire pour observer à haute résolution le vol de ces organites et leur devenir. Résultat, le plancton gobe la microalgue, en digère une grosse partie, son noyau grossit, les chloroplastes volés gagnent en volume et commencent à faire de la photosynthèse, mais le plancton ne s'arrête pas là, il vole aussi l'autre usine énergétique de l'algue qu'on appelle les mitochondries.
Une fois que la cellule hôte gobe la microalgue, elle garde en fait tous les organelles de la microalgue, le noyau, les chloroplastes et la mitochondrie, pendant quelques jours et on observe que le chloroplaste augmente en volume et puis aussi la mitochondrie change de manière drastique sa morphologie. Donc ça, c'est sur quelques jours, puis ensuite, le noyau de l'algue va disparaître. Et c'est là où c'est vraiment étonnant parce que les deux organelles qui fabriquent de l'énergie, le chloroplaste et la mitochondrie, ont absolument besoin de leur noyau pour fonctionner et puis pour performer sur la respiration et la photosynthèse. Donc ce noyau disparaît et on a suivi avec la microscopie subcellulaire comment la morphologie et aussi la physiologie changent du chloroplaste et de la mitochondrie dans le temps. Et donc on a vu de manière inattendue que cette mitochondrie, non seulement elle est retenue dans la cellule, sur quelques semaines, c'était quelque chose qui était mal connu jusqu'à maintenant. Et en plus, elle s'associait, si vous voulez, on voit clairement en microscopie électronique, un changement de morphologie et une association avec le chloroplaste.
Cette kleptoplastidie se trouve donc à la frontière entre prédation, où un être vivant en mange un autre, et la symbiose, où une relation mutualiste s'établit. Et c'est très intéressant d'un point de vue évolutif, car on sait que les eucaryotes, donc toutes les cellules qui portent un noyau comme les nôtres, ont déjà volé des organites. Nous possédons des mitochondries que l'on a volées à des bactéries il y a très 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 longtemps, et de la même manière, les végétaux portent des chloroplastes qu'ils ont eux aussi volés à des bactéries photosynthétiques. L'histoire évolutive du vivant est donc complexe et la kleptoplastidie a pu être une étape importante pour l'acquisition de ces nouveaux organes cellulaires. La suite de cette étude portera sur la biogéographie de ce couple plancton-microalgue. Les scientifiques veulent aller les pêcher ensemble dans le pôle Nord pour mieux observer ce qu'il se passe dans la vraie vie, en dehors du laboratoire et surtout pendant les nuits polaires qui durent plusieurs mois. Ces organites volés sont-ils rapidement perdus ou restent-ils jusqu'à la réapparition de l'aube.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre équipe. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. À la réalisation, c'est Cassandre Puel. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.